Deutsche Welle. Pulsation.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Pulsation. Au menu aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur la signification du mot « annexion » à la lumière de ce qui se passe en Crimée. Et puis ensuite, le metteur en scène béninois Tola Kukui nous parlera de son adaptation de la pièce classique « 12 hommes en colère ». Et c'est comme d'habitude un coup de projecteur qui clôturera cette émission. Paco De Lucia et Eric Abadou sont à l'honneur aujourd'hui. Installez-vous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti.
Le saviez-vous ?
L'annexion. L'Europe est tenue en haleine depuis des mois maintenant par le conflit russo-ukrainien autour de la Crimée, une province de l'Est ukrainien qui a été annexée par le grand frère russe en mars dernier. Qu'est-ce que cela veut dire exactement, une annexion ? Eh bien, le terme désigne le rattachement d'un territoire à un autre qui, généralement, est plus grand. Et c'est effectivement le cas de la Crimée, le dernier d'une longue liste de territoires passés au cours de l'histoire d'un pays à un autre. Il faut bien distinguer l'annexion de la colonisation. Cette dernière correspond plutôt à une occupation plus ou moins oppressante, plus ou moins violente d'une région ou d'un pays sur une période donnée, mais qui finit en général par prendre fin. En revanche, l'annexion vise, elle, à intégrer de manière durable et absolue le territoire annexé dans le système de la puissance annexant. En théorie, il s'agit donc d'assimiler une zone et sa population dans la vie de son nouveau pays, plutôt que de se contenter de l'exploiter économiquement et de traiter les habitants différemment au niveau juridique en leur accordant, par exemple, moins de droits que les autres habitants. Mais cela reste de la théorie, car en pratique, certains territoires annexés sont, de fait, traités comme des colonies. Vous écoutez Pulsation sur la Deutsche Welle. Nous allons à présent parler théâtre. 12 hommes en colère. Cela vous dit quelque chose ? Il s'agit, à l'origine, d'une pièce que le dramaturge américain Reginald Rose a écrite en 1953, après avoir été lui-même juré dans une affaire macabre. C'est le film, réalisé en 1957 par Sidney Lumet avec Henry Fonda dans le rôle principal, qui a rendu l'œuvre connue. Le metteur en scène béninois Tola Kukui l'a présenté lors du dernier FITEB, le Festival international de théâtre du Bénin.
S'il y a dans vos esprits un doute quant à la culpabilité de l'accusé, un doute valable, alors vous devez rendre un verdict de non-culpabilité. Si au contraire, vous n'avez aucun doute valable, alors vous devez en conscience déclarer l'accusé coupable.
C'est la voix off de Tola Kukui qui pose les conditions du huis clos qui va suivre. Les 12 jurés doivent donc délibérer alors que tout accuse le suspect. Un jeune jugé pour avoir tué son père à coups de couteau. Tout l'accuse, c'est-à-dire plusieurs témoins et l'arme du crime retrouvée sur les lieux et qui lui appartient. Pourtant, au moment du vote, un juré ne lève pas la main pour le désigner coupable. Sa raison ? Il n'est pas sûr. S'ensuit alors un long débat où chacun change sa position au rythme des arguments qui apparaissent, des révélations qui se font, des faits établis qui se désagrègent. Dans cette version béninoise, trois femmes font partie des jurés.
Une chance sur un million.
Une chance.
Mais peu probable.
Peu probable, mais une chance tout de même.
Tola Kukui n'a pas choisi par hasard de reprendre cette pièce, sachant qu'à l'origine, les jurés sont tous blancs et l'accusé noir.
Il n'y a pas de raison qu'à formation égale, un comédien, qu'il soit blanc ou noir, n'ait pas accès à un répertoire intéressant. Ça, c'est une des premières raisons. Je ne me pose pas la question de savoir si telle ou telle pièce a été écrite pour un blanc ou pour un noir. Elle me plaît, je la revisite et je fais rentrer dans mon délire d'autres comédiens qui sont dans la même dynamique que moi. Et il n'y a pas que des blancs qui jouent, que des noirs plutôt, qui jouent dans mes mises en scène. Je fais aussi un mix et puis voilà.
Est-ce qu'il y avait une difficulté particulière pour vous à adapter ce sujet ici
non,
pour la scène?
Non, pas du tout. Pas du tout. Et comme je l'ai dit tout à l'heure pendant le salut, je dis que c'est un sujet universel.
Oui.
Donc c'était facile. Et que toutes les sociétés peuvent se reconnaître dedans. Les erreurs qu'on peut faire sur un jugement, les appréciations qu'on peut faire, mettent en exergue notre propre vécu. Vous avez remarqué que parmi les 12 personnes, ceux qui ont le plus parlé, il y en a quelques-uns qui se sont dévoilés. Et on a vu qu'ils venaient là avec toute la charge de leur vécu, de leur caractère, de leur personnalité. Et ils n'étaient pas objectifs, puisque je le dis à la fin, il est difficile d'être objectif. C'est vrai, celui qui veut aller au match de foot, c'est un subterfuge. Celui qui a son garage qui court à la ruine, c'est aussi un subterfuge, parce qu'à la fin, il va dire, ses enfants sont des voyous. Les enfants d'aujourd'hui sont des voyous. L'autre qui va jusqu'au bout, presque, de sa logique, va finir par nous dire... moi aussi, j'ai vécu un truc comme ça. Donc, vous voyez, chacun vient avec sa charge émotionnelle. Et c'est en cela que cette pièce, elle est complètement universelle. Et c'est une des raisons pour laquelle je l'ai montée aussi.
Au final, tous les jurés vont se ranger derrière le premier à avoir émis un doute et voter non coupable à l'unanimité. J'ai également abordé avec Tola Kukui, qui pendant longtemps a été le co-directeur de ce festival, la question récurrente du financement de la culture au Bénin.
Y a-t-il suffisamment de moyens dans la culture au Bénin ?
Ça, je dois dire honnêtement, hein, que j'étais cofondateur du FITEB dès le début. Nous avons commencé avec 1 million.
De francs CFA ?
Oui, 1 million de francs CFA. Et de notre partenaire, le premier vrai partenaire, l'Institut français, avec 45 millions. Ça a été fulgurant au départ, ce qui a permis aux autorités, quand je leur ai parlé, de tout de suite, à la troisième édition, de monter à 75 millions pour ne pas attraper la honte par rapport à notre partenaire français. Et depuis, ça n'a pas cessé d'augmenter. C'est vrai, la question que vous me posez, je pense que vous me la posez du point de vue de quelqu'un qui a l'habitude de voir des festivals ailleurs. Si c'est pour faire cette comparaison, bien évidemment, les moyens dont nous disposons, que l'État met à notre disposition, est ridicule. Mais quand je fais la comparaison avec les autres États de la sous-région, oui, je peux être fier en disant que nous avons certainement obligé l'État béninois à considérer qu'un festival de théâtre au Bénin était valorisant pour la vitrine du Bénin et qu'il y fallait un peu de moyens. Donc ce qu'on nous donne n'est peut-être pas suffisant, mais il est assez important parce que je ne vois pas un seul pays, un seul État de la sous-région qui met autant d'argent dans un festival, entre 150 et 200 millions.
Mais le festival est biennal, tous les deux ans, et c'est ponctuel. Je parlais, moi, de la culture en général. Est-ce que vous pensez qu'elle est suffisamment soutenue au niveau financier ?
Ah non.
En général.
Non, elle n'est pas soutenue, et ça, je le dirais sans retenue, parce que, tout simplement, je crois que ce n'est pas dans le schéma politique de nos dirigeants. La culture est le parent pauvre, et si l'État fait quelque chose, parce que nous crions un peu, nous crions, et on fait un petit effort. Mais seulement, ce qui est regrettable, c'est qu'au bout de tant d'années, on n'ait pas compris que pour qu'il y ait des artistes, il fallait qu'il y ait des formations. Et pour qu'il y ait des formations, il faut qu'il y ait des structures qui reçoivent ces postulants, ces élèves, qu'on les forme avant d'en faire des stars. Non, c'est vrai que l'État ne fait pas beaucoup pour la culture en règle générale, mais Nous avons un fonds d'aide à la culture qui est à 1 milliard, et je pense que nos gouvernants pensent que le milliard, c'est déjà pas mal pour les artistes. Ce qui est insuffisant, parce que avant de débloquer 1 milliard, il faut avoir fait une étude, un état des lieux, savoir ce dont ont besoin les artistes pour leur venir en aide. Je pense qu'on met la charrue avant les bœufs. De l'argent, c'est bien, mais l'utiliser à bon escient, c'est encore mieux.
Merci.
C'est moi. Recul.
Merci infiniment.
À bientôt.
Coup de projecteur.
Non, ce n'est pas un groupe de guitaristes que vous entendez, mais un seul joueur. Le virtuose espagnol Paco de Lucía, l'un des interprètes de flamenco les plus populaires du XXe siècle. Né dans une famille de guitaristes dans le sud de l'Espagne, il débute sur scène dès l'âge de 11 ans et deviendra, de la fin des années 60 jusqu'à sa mort, une icône du flamenco. Inoubliable reste l'album Live avec les guitaristes de jazz John McLaughlin et Aldi Meola. Paco de Lucía s'est éteint il y a maintenant un an, le 26 février 2014, à Cancun, au Mexique, à l'âge de 66 ans. Le 26 février, c'est aussi l'anniversaire d'une artiste afro-américaine, mais qui, elle, est bien vivante. Coup de projecteur donc sur Erykah Badu, puisqu'il s'agit bien de la chanteuse de R&B, soul et rap. Née Erykah Wright, la jeune fille originaire du Tennessee dans le sud des États-Unis grandit au Texas, à Dallas. Elle apprend tout de sa mère, la comédie, le chant, la danse et la peinture. Erykah Badu, depuis son plus jeune âge sur scène, invente un nouveau genre dans le paysage du rhythm and blues des années 90, en intégrant dans sa musique une bonne dose de spiritualité. Une spiritualité symbolisée sur scène par ses tenues drapées avec turban sur la tête. Ensuite, elle changera de style. Elle a réussi à percer en 1997 avec cette chanson que je vous propose d'écouter pour nous quitter, On and On. Vous accédez au podcast de cette émission sur dw.de/français, rubrique podcast. Merci de votre attention et à très bientôt sur cette antenne. Ciao. Manifest with everything.